Bonjour à tous, ici Maxence Rigottier de blogcourseap.com. Aujourd'hui, je suis avec l'entraîneur fédéral Jean-Claude Lantier. Donc, si vous ne connaissez pas Jean-Claude Lantier, il est entraîneur à Paris. Tu t'occupes d'un club qui s'appelle Paris.
L'AC Paris-Joinville.
L'AC Paris-Joinville. Également, tu écris certaines fois dans le magazine Runners.
Tout à fait.
Donc, on peut te retrouver, par exemple, avec un article « Comment puis-je baisser mon chrono sur semi-marathon en passant de 2h à 1h45 ?» Tu entraînes également pour New Balance.
Oui.
Donc, je vais poser un petit peu différentes questions à Jean-Claude, puisque c'est la première fois sur le blog que j'interview un entraîneur. Donc, je vais laisser Jean-Claude se présenter, ensuite lui demander un petit peu comment tirer le meilleur des athlètes, comment ça se passe si vous arrivez pour la première fois dans un club d'athlétisme, etc. Salut Jean-Claude.
Salut Maxence.
Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton vécu dans la course à pied et également depuis quand tu entraînes et pourquoi?
Oui, mon vécu de course à pied, ça fait 38 ans que je suis dans la course à pied et ça fait maintenant une douzaine d'années, 12-13 ans que j'entraîne. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur du plus bas jusqu'au entraîneur fédéral, option demi-fond et marche. J'ai été athlète au CA Montreuil et entraîneur au CA Montreuil et maintenant je suis depuis 4 ans entraîneur et référent demi-fond à l'AC Paris-Joinville.
D'accord.
Et pourquoi je vais entraîner? Pourquoi j'aime entraîner?
Voilà,
j'ai commencé à entraîner suite à une blessure au pied. J'ai une petite bursite au calcanéum, donc qui m'a un peu empêché de courir pendant quelques mois. Et j'ai un copain qui s'appelle Serge Olivares, qui était entraîneur déjà à l'époque à Montreuil. Donc je lui ai un peu donné un coup de main comme ça, ça m'a plu. Il m'a séparé le groupe en deux avec Serge. Et les athlètes que j'avais commençaient à avoir un petit peu de progression, ça m'a intéressé. Ayant 37 ans à l'époque, ma carrière d'athlète était plus derrière moi que devant moi. Donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur pour poursuivre mes athlètes dans leur progression et puis ne pas leur faire faire des bêtises, quoi.
D'accord. Alors comment s'améliorer sur 10 km semi-marathon ou des courses de 20 km? Également, tu as entraîné la célèbre chroniqueuse sur M6, Estelle Denis. Explique-nous un petit peu des plans d'entraînement pour une course de 10 km ou un 20 km en semi-marathon.
Après, tout dépend de la fréquence d'entraînement. Pour le plan, on peut le faire que si une personne me dit « je cours une fois par semaine », je ne peux pas faire grand-chose. On n'est pas à Lourdes, je peux faire des miracles, je vais dire voilà quoi.
Exactement.
Donc il faut que les personnes me disent, en fonction de leur implication, leur emploi du temps, se préparer un 10 si c'est dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, l'entraînement sera différent. Si que ce soit pour un 10, un semi ou un marathon, je veux dire, c'est pareil, quoi, l'échéance doit être assez éloignée. Et plus on s'entraîne, mieux on sera pour la date de la compétition. Après, le plan, je le fais en fonction des personnes, de leur antécédent sportif, s'ils débutent, s'ils me disent non, je cours déjà depuis 3 ans, 4 ans ou 15 ans. Voilà, après, chaque personne a un plan différent, quoi, voilà.
Donc, en gros, tu demandes la chose suivante, 1, le niveau,
voilà.
Si les débutants, coureurs confirmés.
Réguliers ou confirmés, tout à fait.
2, quand est-ce que c'est la prochaine compétition que tu souhaites réaliser, si c'est en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et 3, le nombre d'entraînements, la disponibilité de la personne.
Tout à fait.
Et en fonction de ces 3 critères, tu crées un plan d'entraînement.
Voilà, et aussi en fonction du travail, si c'est un travail sédentaire, un travail debout, s'il y a 3 heures de transport par jour ou s'il va à pied à son travail, les séances sont aussi différentes à ce niveau-là aussi. Il faut tenir compte de cette fatigue du transport journalier.
Exactement, parce que si on a un emploi de bureau, on est moins fatigué que si on a passé toute la journée dehors avec un travail assez difficile
tout
comme la maçonnerie.
Tout à fait. Tout à
fait. Notre boulot. Et en tant qu'entraîneur, comment tirer le meilleur potentiel de ces athlètes? Parce que en tant qu'entraîneur, la satisfaction, je pense, c'est d'emmener les athlètes à se surpasser, à baisser les chronomètres personnels, à aller au bout de soi-même. Comment t'arrives à tirer le meilleur potentiel des athlètes?
Tout dépend aussi de leur implication. Il faut qu'eux aussi aient envie d'être là chaque fois, chaque entraînement. Ce qui compte dans la progression de l'athlète, c'est la régularité de l'entraînement. S'il vient deux fois par semaine pendant trois semaines, puis après il n'y a plus pendant un mois, il ne progressera pas. Enfin, il ou elle ne progressera pas. Ce qui compte dans l'entraînement, c'est la régularité. Et après, en connaissant l'athlète, je sais où, au fur et à mesure de des semaines, je sais où je peux pousser un peu, tiens, là, je peux aller un peu plus loin, je sais qu'il va, il ou elle va bien réagir, ou va pas se péter, ou voilà. Après, c'est une question de feeling, après. Entre l'athlète et puis l'entraîneur, je sais ce que je peux leur demander, et puis je vois si je peux pousser un peu, ou si je vais rester à un niveau correct, quoi.
D'accord. Dans un premier temps, c'est t'apprends un petit peu à connaître la personne, la personnalité, le caractère.
Tout à fait.
Voilà. Et ensuite, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a forcément des personnes, on a plus de feeling,
voilà, tout à fait.
Où on est mieux à même de dialoguer, etc.
Tout à fait.
Et concernant la compétition, qu'est-ce que tu dis un petit peu à tes athlètes pour ne pas être stressé, être angoissé le jour J de la compétition? Mais quand on est athlète, on est coureur, hein, on a tous ce syndrome-là, entre guillemets, où on se dit « Waouh, je vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être abandonner, etc. » Bref, on a pas mal de pensées négatives. Qu'est-ce que tu dis à tous tes athlètes pour justement qu'ils ne sombrent pas le jour J?
Ça, c'est chaque athlète aussi est différent. Il y en a plus ou moins qui stressent. Il y en a qui certains qui stressent un tout petit peu. Mais chaque athlète, étant athlète encore et courant encore un petit peu, moi-même sur un 10 km, je prends le départ. Maintenant, j'ai moins de pression parce que maintenant, je ne cherche plus la performance pure, ce que j'en ferai plus. Je passerai jamais mon record sur 10 km maintenant, il est derrière moi. Mais quand même, avant le départ d'une course, c'est toujours un petit peu d'adrénaline, toujours un petit peu de tension qui est palpable. Le départ d'une course. Donc après, à chaque athlète, il faut essayer de parler d'autre chose avant la course. Quand on fait la route ensemble, on parle pas de la course, on parle de la pluie, du beau temps, du film de cinéma, des copains, des copines, choses comme ça. Mais par contre, après, dans l'échauffement, l'athlète, il faut qu'il se concentre tout seul. Et c'est de dire qu'en fin de compte, c'est qu'une course intermédiaire, c'est pas Championnat de France, c'est pas Jeux Olympiques. Donc voilà, il y aura d'autres courses derrière. S'il rate celle-là, elle n'est pas prioritaire dans la programmation d'entraînement. Donc après, voilà, il faut y aller par étapes aussi. Essayer de dédramatiser la situation. Rester de dire, c'est comme si en entraînement, en fin de compte, sauf que là, on va courir qu'une fois. L'entraînement, il y a plusieurs séries, là, encore qu'une fois. Donc, essayer de trouver un peu d'humour aussi dedans pour essayer de faire rire un peu, essayer d'un peu déstresser un peu la personne.
Ah, parce que le but, c'est pas encore de s'angoisser encore plus. Ayez vraiment confiance en vous. Si vous êtes bien entraîné, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir un jour sans.
Puis on sait que si on stresse un peu au départ, on utilise de l'énergie, ce qui ne sera pas bonne, enfin qu'on ne pourra pas se servir pendant la course après. On aura usé l'énergie avant, à cause du stress de la course, où on serait déjà en soir avant de partir, parce qu'on a peur et comment je vais courir. C'est tous les femmes surtout, qui pensent ne pas être capables de faire la course, qui sont un peu plus défaitistes que les hommes, je trouve.
Donc toi, tu ressens, via ton club, toutes les personnes que tu entraînes,
ouais,
que les femmes sont un petit peu plus anxieuses, ouais, que les hommes.
Ouais, un peu plus anxieuses, dire « j'y arriverai pas » ou « je me sens pas capable ». Enfin, c'est pas une généralité, mais quelques-unes, c'est un peu plus…
Oui. Plus d'obstacles.
Voilà, tout à fait, que les masculins, tout à fait.
D'accord. Et tu me disais tout à l'heure que tu entraînais des personnes qui font soit du 800 mètres, 1500, 5 km, 10 km, semi-marathon, etc. Comment gérer au mieux sa course? Est-ce qu'il faut partir à fond de tenir? Est-ce qu'il faut mieux suivre les temps de passage que l'on s'est fixé avant le départ et où on s'est entraîné? Est-ce qu'il faut partir un peu plus doucement que son objectif et ensuite accélérer à aller crescendo? Qu'est-ce que tu conseillerais?
Je vais dissocier la piste et la route.
Ouais.
C'est sûr que sur un 800, si on part pas assez vite...
À piste, fond de balle.
Voilà. Un 800, c'est rapide. Maintenant, le 800, c'est demi-fond, mais c'est demi-fond. C'est la vie, c'est une vitesse longue, presque maintenant. Jusqu'on fait ce que fait Rudy Schaal et compagnie, on s'en rend compte. Mais maintenant, sur un 10 km et au-dessus, il faut savoir gérer sa course, ne pas se laisser emporter par l'euphorie du départ, parce que souvent, on est au départ d'une course, un coup de pétard, tout le monde part à fond. Et nous, on est dans l'euphorie, on se laisse emporter pareil, et puis des fois, on est tout de suite en sur-régime. Et même si on se sent très bien au départ, on dit « Oh, je suis bien », et puis au 5e kilomètre, il y a un coup de moins bien, puis on regrette d'être parti vite. Mais après, il est trop tard.
Ouais, si on met dans le rouge,
sur un 10 km, c'est pas trop grave, parce qu'on va dire, est-ce que 5 km, on peut s'en tirer, à proprement parler, tranquillement. Mais sur un signe, sur un marathon, si on part vraiment trop vite, on rentre dans le rouge tout de suite, on va faire des temps catastrophiques, voire même arriver à l'abandon, quoi. Voilà. Donc il faut mieux gérer son départ, être dans des allures assez réguliers. Moi, je suis un peu partisan sur le marathon du negative split. Je préfère qu'on passe avec une ou deux minutes de retard au SMI qu'avec beaucoup d'avance au SMI, quoi. Parce qu'on te permet de... Le fameux du 30 km, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Moi, je n'ai jamais vu, donc maintenant, je ne sais pas. Mais voilà, mais après, je préfère qu'on soit un peu en dedans, une bonne partie de la course. Parce que le marathon commence environ au 30e, avant on s'échauffe, après on fait 10 km de course.
Exactement.
Donc voilà, je préfère qu'on avait encore bien en forme au 30e pour bien finir derrière et pas s'écrouler dans les derniers kilomètres, quoi. Que si on s'écroule à la fin du cours d'un marathon, c'est pas des secondes, mais c'est des minutes et des minutes qui défilent.
Parce que si les crampes, la fringale, voilà, ou tout autre problème vous arrive,
voilà, tout à fait,
on perd un temps infini.
Bah, tout à fait.
Et pour toutes les personnes qui n'ont jamais rejoint de club d'athlétisme de leur vie et qui se posent pas mal de questions comme « Oui, mais moi, j'ai pas forcément le niveau pour intégrer un club. » Oui, mais moi, j'ai pas spécialement envie de faire de la compétition, etc. Explique-nous un petit peu comment ça se passe lorsque l'on arrive dans un club. Moi, personnellement, j'ai déjà été à Chalon, qui s'appelle donc l'ECA, Lyon Athlétisme et ASPTT Marseille. À chaque fois, les entraîneurs étaient différents avec des méthodes différentes. Ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble de l'athlétisme et à chaque fois des nouvelles méthodes. Explique-nous un petit peu toi, ton fonctionnement, et également on peut prendre l'exemple d'Estelle Denis. Donc elle est arrivée, comment vous êtes connue, comment tu l'as coachée, etc.
Pour Estelle, c'est sympa parce qu'elle n'est pas en club. Je l'entraîne à l'extérieur. Elle n'est pas en club. J'entraînais pour les 20 km de Paris il y a 2 ans, et puis pour les 20 km de Paris cette année aussi. Donc c'est une approche différente. Mais maintenant, si une personne vient en club et qui n'a jamais été en club, il faut que les gens n'hésitent pas à aller en club, justement. S'ils veulent progresser, parce que courir tout seul, c'est bien. Mais vraiment, on stagne.
En groupe, c'est mieux.
Et mon groupe, c'est mieux. Et en plus, on a un entraîneur, quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous donne des bons entraînements. C'est quand vous courez tout seul, quand on court tout seul quelque part, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, on progresse au départ, on progresse. Après, on stagne et après, on régresse. Parce qu'on ne fait pas de fractionné, on ne fait pas de séance spécifique, on ne fait pas de PPG, enfin, préparation physique. On reste juste, on court, quoi. C'est tout. Voilà. Même si on prend un bouquin, l'entraîneur est là pour vous dire, tiens, aujourd'hui, tu avais une séance, je sais pas, on va prendre 80 000 mètres à faire aujourd'hui. On voit que la tête est fatiguée, hop, on change la séance, on peut se retrouver obligatoirement, tu rentres, tu fais du footing et tu rentres chez toi. Alors, s'il prend un bouquin, quel que soit le magazine qu'il peut lire, le magazine ne verra pas que la tête est fatiguée.
Si vous lisez Runner's World, par exemple, ou Jockey International, Running Latitude, n'importe quel magazine, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais, malheureusement, la pratique.
Tout à fait, tout à fait. Donc moi, les gens qui viennent en club au début, qui ne me connaissent pas, j'essaie de mettre en confiance, je présente le groupe. Je leur dis, venez faire une ou deux séances gratuitement, sans engagement pour vous. Voir si l'ambiance vous plaît, si ce que je vous propose, ça vous convient ou ça ne convient pas. Parce qu'on peut très bien ne pas plaire à la personne pour X raisons. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Donc les personnes viennent, ils commencent à faire un footing, genre ils me disent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont fait avant. Je fais une petite séance pour les voir courir, parce que l'œil extérieur, l'œil est toujours intéressant de voir la personne courir, voir s'il court ainsi, s'il y a une belle foulée ou s'il y a des corrections à faire. Et puis après, quand on revient, elle prend licence au club et puis on enchaîne un plan d'entraînement et puis on est parti pour une saison.
Est-ce que vous faites un test de VMA?
J'en fais, oui, tout à fait. D'être confirmé, je ne le fais pas, je tiens compte des chronos antécédents. Et après, en fonction de ça, je fais mes plans d'entraînement en fonction des plans, des chronométriques antécédents.
D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait d'entraîner?
C'est de prendre...
Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'être entraîneur?
Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais les avantages, c'est que... tu vois, il y a des gens qui viennent de leur plein gré vers moi, je parle de mon club, donc vers moi, et que de les voir progresser, quoi. S'ils voient des débutants qui progressent, qui gagnent 3 sur 10 km, qui partent de... Là, j'ai des athlètes qui l'année dernière ont commencé, des débutants qui faisaient 50 minutes au kick 10 km, des femmes, et qui font 42 minutes maintenant. Donc voilà, et elles sont contentes, voilà, elles viennent même mettre 6 entraînements de plus par semaine pour progresser encore un petit peu. Donc c'est pas la progression que je leur propose, c'est que ça leur plaît, c'est que ça leur donne une bonne humeur, bonne ambiance, et qu'ils viennent au stade avec le sourire, quoi, voilà. Ça, ça me plaît. Les inconvénients, c'est qu'il y en a parfois qui prennent mon téléphone pour 10 fois par jour, pour dire voilà, j'ai mal au pied, j'ai mal dormi, j'ai la migraine, voilà. Il y a des personnes aussi qui sont un peu trop accrochées à l'entraîneur après. Mais c'est très, une petite minorité. Hein. La grosse majorité, c'est génial. Quoi. On part en déplacement ensemble, il y a un esprit de groupe, il y a une ambiance, les gens courent ensemble, ils progressent, ils s'éclatent et ils sont heureux de vivre. Ouais. Et moi aussi, du coup.
L'avantage d'entraîner, c'est de voir la satisfaction de tous ces athlètes
tout à fait.
Réussissent et qui prennent du plaisir en courant.
Tout à fait.
D'accord. Et quels sont les conseils que tu pourrais un petit peu donner pour tous les coureurs confirmés qui souhaiteraient atteindre le haut niveau ou qui souhaiteraient vraiment être tout près des meilleurs?
Ça, il y en a pour.
Est-ce qu'il y en a dans ton club? Tu m'avais parlé tout à l'heure, je crois, d'un.
Ouais, j'ai eu un cadet qui était premier champion de France. Il était premier parce qu'il était italien, il ne peut pas être champion de France, mais il était premier en cadet. Et ensuite, j'ai eu une fille qui avait fait deuxième et troisième au champion de France junior en salle aussi sur 800 mètres. Et après, ce qu'il faut vraiment au niveau, c'est une hygiène de vie, c'est. Être réduit aux entraînements, et puis faire des sacrifices sur certaines choses, sur des sorties, sur. Il faut vraiment être. Il faut vraiment être très strict avec soi-même pour pas s'égarer à droite à gauche, et s'entraîner régulièrement, le plus souvent possible, bien sûr. Plus on s'entraîne et mieux c'est. En tenant compte toujours du travail ou des études, quel que ce soit, pour pouvoir progresser vers le haut niveau. Mais malheureusement, il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus.
Ouais, c'est un sport extrêmement ingrat,
difficile pour réussir. Voilà, beaucoup d'investissements pour des fois, malheureusement, pas beaucoup de résultats.
Exactement. Et dans ton club, hein, Paris-Joinville, est-ce que vous avez plus de personnes qui viennent pour courir pour le loisir, pour faire des compétitions ou pour perdre du poids? Quelle est la tendance?
À la CP Paris-Joinville, on a une structure qui est athlète santé.
D'accord.
Donc les gens, c'est assez faire que du loisir. Moi, j'ai un groupe compétition au club. Et avec la société la Just Run, on a un groupe de personnes qui sont en entraînement, mais qui s'en prennent des marathons, des courses sur route, préparer des courses, qui font de la compétition. Un objectif de compétition, un objectif chronométrique. D'accord. Mais qui peut être de 2h, 2h30 au marathon jusqu'à 4h au marathon. Hein. Voilà, du débutant au confirmé, là c'est pareil. Je veux dire, voilà. Après, c'est l'investissement de chacun par rapport à la performance qu'il veut faire. Et l'âge.
Quelle est la moyenne d'âge d'ailleurs
Dans mon groupe d'entraînement, l'âge moyenne d'âge doit être. C'est une bonne question parce que je n'ai pas fait cette année.
Plus 30 ans, plus 40 ans.
Non, je suis en dessous de 30 ans.
C'est en dessous de 30 ans. Donc c'est assez jeune quand même.
Oui, c'est jeune, tout à fait. Oui, là, j'ai un groupe de 30 athlètes au club et c'est assez jeune.
D'accord. Et un petit peu plus de garçons que de filles?
Oui, j'ai plus de garçons que de filles.
D'accord. Et est-ce que vous organisez un petit peu des stages, des rendez-vous en groupe? Et si oui, quelle est l'importance des stages de course à pied, des entraînements en groupe dans sa propre progression?
Oui, une fois par an, on fait un stage avec le club. Là, cette année, avec le groupe demi-fond, on s'en va à Buja, une semaine.
C'est un stage organisé par le club?
Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, le stage, le reste du club va à la boule. Nous, une fois, on va à Buja, parce que la boule, la plage, c'est bien, mais pour faire des footings longs d'une heure, la plage, une ou deux fois, ça va, après, à Ragol, comme on dit. On va en Corrèze, on va plutôt de Villevache, on va à Buja. Il y a un centre d'entraînement là-bas que j'ai déjà pratiqué avec la fédération, quand j'encadre des stages nationaux de cadets et cadettes. Et j'y suis deux, trois fois aussi, en temps étant à Montreuil, et maintenant, une fois déjà avec Joinville aussi. Et là, on y retourne. Et l'important, c'est qu'on s'entraîne deux fois par jour. Les gens ne pensent pas au boulot, il n'y a pas de transport. Donc c'est ils dorment, le matin c'est séance, on mange petite sieste, re-séance et on récupère le soir, quoi. Voilà. Donc c'est les garçons vont faire environ 130 km dans la semaine.
D'accord.
Et les filles vont faire entre 85 et 110 ou 115 km dans la semaine par rapport à leur 800 3000. Enfin, des courses de 800, courses de 3000. Quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des blessés, des petits pépins?
Non, non, je touche, ou... je touche du bois, non, généralement je reviens sans blessé.
Bon bah,
donc, là, je touche du bois, voilà quoi. Donc, et l'important, je trouve que ça crée une émulation de groupe, une cohésion dans le groupe qui est plus importante en rentrant de stage qu'avant de partir. Parce que vivre ensemble pendant une semaine, presque 24 heures sur 24, c'est pas toujours facile. Il peut y avoir des accrochages, mais vraiment minimes. Et par contre, voilà, il y a une cohésion de groupe qui se crée, qu'on retrouve auprès d'Interclub qui est génial, quoi.
D'accord. Et tout à l'heure, t'expliquais également en aparté tes diplômes d'entraîneur. Qu'est-ce que l'on apprend, quelle est la démarche qui est donnée pour pouvoir bien entraîner?
Bah, il y a des formations que la Ligue et la Fédération, enfin pour le moment, après sa fédération, organisent des formations d'entraîneurs. Donc, ce sont des entraîneurs experts qui viennent faire les formations. On a une semaine de formation quand on monte au dernier niveau des entraînements. Et de là, on apprend à faire un plan, on apprend à reconnaître un athlète qui a des qualités, un athlète qui sera un bon coureur et pas un très bon coureur. Donc voilà, après on met sa sauce, on apprend à faire des plans. Et après, avec l'expérience, on apprend à améliorer ses plans, les changer, les arranger. Et puis, l'évolution de la vie fait que j'entraîne plus tout comme j'entraînais il y a 10 ans, que j'aurais mes plans, je garde quelques vieux plans comme ça, pour mémoire, je dis regarde, je dis voilà, je faisais faire ça, mais c'est de la folie. Voilà quoi.
On progresse,
et puis on apprend. Je suis toujours dans des séminaires, dans des colloques où il y a d'autres entraîneurs viennent, ils disent tiens, ça c'est sympa, tiens, donc je note, et puis je m'en sers, après je teste, et puis je vois ça me plaît pas.
Ah, tu t'inspires un petit peu.
Ah oui, j'invente rien, hein, j'invente rien.
Personne, enfin, j'invente rien. C'était bien.
Voilà, tout à fait.
Et de tester sur
tout à fait.
Les athlètes.
Bah, vaut mieux, alors, je ne devrais pas dire ça, vaut mieux tester sur un athlète qui est moins performant que sur un athlète performant.
Ouais, c'est histoire de ne pas l'écurer ou de le griller.
Voilà, parce que si je fais un test sur un athlète qui vaut 50 minutes, je veux prendre comme ça, au 10 km ou 40 ou 10 km, s'il fait 39 ou qu'il fait 42, à la limite, c'est pas trop grave. Mais sur un athlète qui fait 30 minutes ou 10 bornes, si je me plante et qu'il fait plus de 33,
là,
ça va pas être bien. J'aurai des comptes à rendre.
Exactement. Et vous faites un peu de gainage
Tout à fait. Ben, durant l'hiver, il y a une séance par semaine qui est réservée à la PPG, donc préparation physique généralisée. Et ensuite, on oriente, enfin plus orienté après vers la course, dans l'avancement de la saison. Il n'y a pas des piqûres de rappel durant l'été, les séances de rappel un petit peu, quoi. Et on fait une grosse préparation durant les mois d'hiver.
D'accord. Et en tant qu'entraîneur de hors stade,
ouais.
Tu fais également un calendrier spécifique juste pour la route.
Bah non, mais hors stade,
comment est faite ta saison de septembre à juin, dans ton esprit en tant qu'entraîneur? Comment alors, tu la découpes cette saison?
Septembre, il y a encore des courses sur route. Exactement. Donc c'est mon objectif, on va déjà reprendre l'entraînement au mois d'août pour être performant au mois de septembre. Plus souvent, je fais un France de 10 km ou ces marathons ont lieu en septembre ou octobre. Donc les gars ont pris les qualifiés pour le Championnat de France, ont repris l'entraînement au mois d'août. Et ensuite, ceux qui rentrent de vacances reprennent gentiment l'entraînement en septembre, font du foncier. Parce que moi j'attache une grosse importance à faire les crosses l'hiver. D'accord. Ça soit la piste, la route, ils font du cross.
D'accord.
Ça, je suis un peu. Là, je suis. Mais,
moi, chaque athlète, sans exception.
Voilà, ça soit un cadet ou un vétéran, il fait son cross. Il y en a qui vont au Championnat de France, il y en a qui vont faire en régionaux, aux interrégionaux, mais j'insiste sur le fait que tout le monde fait du cross. Après, au mois de mars, il y a une coupure, petite coupure, de temps de régénérer, et après, on rattaque la route et on rattaque la piste. Avec un point d'or, les interclubs sont importants pour le club, comme pour chaque club, de toute façon, les interclubs sont importants. Ça, c'est
les deux rendez-vous, voilà, les deux tours des interclubs, voilà, marquer le.
Donc, ça, c'est important pour le club. Je pense que le club présent demande aux gens qui sont importants, qu'ils fassent les crosses, ou la salle pour les sprinteurs, choses comme ça, et les interclubs. Après, les gens courent où ils veulent, mais c'est important que le rendez-vous d'interclubs soit dans le calendrier des athlètes.
D'accord.
Et ensuite, après, au mois de mai, juin, pour les plus performants, ça dit différents chemins de France, quoi, de cadets, juniors, enfin, chemins de France des jeunes, les nationaux, les élites.
D'accord. Ouais. Et vous avez beaucoup d'athlètes qui s'entraînent en salle ou...
Pour moi, non. Moi, le demi-fond, je ne fais pas de salle.
Ils n'essayent pas un 1500.
Non, enfin, si, ils vont peut-être faire un 1500 ou 800, mais juste comme ça pour changer de la routine de l'entraînement. Mais je ne ferai aucune préparation spécifique pour la salle. Moi, pour le demi-fond, c'est dehors.
Ok, voilà. C'est, le meilleur moyen d'améliorer son mental.
Voilà, tout à fait.
Ok. Et pour finir sur une dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton site justrun.fr qui intervient dessus?
Tout à fait.
Comment ça se passe?
C'est une société qui a été créée l'année dernière, et justrun.fr, et je suis le coach référent. Donc on entraîne des sociétés, des particuliers, qui peuvent conduire équipe sur 10 km, c'est marathon ou marathon.
D'accord.
Et donc je les vois le temps de midi, ou le soir, ou le samedi matin, enfin quand le club me laisse du temps de libre, pour les préparer, pour les voir, les préparer. Donc pour moi c'est de la tête comme les autres. Donc je leur fais un plan d'entraînement spécifique, chacun personnalisé. Ils ont un suivi, on se voit régulièrement une fois par semaine ou plus, ça dépend, pour la préparation de leur objectif. Donc j'ai beaucoup de gens maintenant qui commencent à préparer le marathon de Paris. Donc ils vont préparer le marathon de New York, marathon de Berlin, choses comme ça. Donc il y a des échéances assez longues. Et quand ce sont des personnes qui ne sont pas, je veux dire, compétitives au départ, qui sont un peu plus âgées que mes athlètes, c'est des personnes qui ont entre 35 et une cinquantaine d'années, 35 ans et 50 ans. Donc j'ai vu aussi une approche différente d'un athlète qui a 25 ans.
D'accord, et ça c'est un suivi, un coaching en ligne.
Tout à fait, en ligne, tout à fait.
Tout par email.
Par email, donc
je les vois.
Donc les gens peuvent aller voir sur justrun.fr, ils verront le processus, comment ça fonctionne.
Vous tapez, vous voyez le t-shirt justrun.fr, directement sur le site.
Tout à fait, voilà.
D'accord. Et tu me disais aussi que tu t'occupais de l'équipe New Balance.
Je suis le coach référent aussi pour les événementiels comme le Scatané, les 20 km de Paris ou certaines courses comme avant aussi Odyssea où l'université est sponsor. Ben, tout dimanche matin, là, pour les 20 km de Paris de 2012, il y avait des entraînements qui avaient lieu au Champ de Mars tout dimanche matin à partir de 10h. Et j'avais. Cette année c'était un peu chaud comme on dit parce que j'ai eu entre 50 et 100 personnes à préparer. Donc une séance d'une heure, vous devez pareil, du footing, du fractionné, et puis voilà, donner aux gens des conseils de course, préparation, changer de chaussures, c'est pas bon ce que vous avez, voilà, des petits détails techniques, mais qui ont leur importance, surtout au niveau des chaussures.
Voilà. Justement, on va revenir sur les chaussures. Quand tu vois une première fois un athlète, c'est généralement, il y a souvent des erreurs où les personnes ont mal choisi leur paire de running.
Ça arrive.
Parce que si vous êtes débutant, il y a une chose où il faut investir pour courir dans la course à pied, c'est une bonne paire de running.
Ah oui, tout à fait.
Vous pouvez courir avec un vieux short, un vieux t-shirt,
tout à fait.
Mais préservez vos pieds, vos genoux grâce à une excellente paire de running.
Et ne dites pas, j'ai une paire de chaussures dans mon placard depuis 5 ans, je ne les ai pas mises, elles sont neuves, c'est pas vrai. Parce que l'amorti sèche au fur et à mesure.
D'accord.
Et la boîte neuve extérieurement. Vous allez courir 3-4 fois avec et l'amorti ne reviendra plus à sa position initiale et là vous risquez de vous blesser. Donc il faut vraiment avoir des chaussures, modernes, enfin récentes. Pas mal de chaussures dans son placard depuis 5 ans, qu'on a eu un anniversaire ou un Noël quelconque et qu'on n'a jamais mise. Voilà, il faut vraiment des chaussures toutes fraîches.
Et pour rappel, la durée de vie d'une paire de running, c'est environ entre 800 et 1200 km.
Tout à fait, voilà, c'est ça.
Généralement. Puis une petite astuce, si vous voulez économiser de l'argent, à acheter en solde ou en promotion.
Tout à fait.
Comme cela, ça sera moins cher.
Tout à fait.
Ok. En tout cas, merci pour cette vidéo, cette interview.
Merci à Thomas SD, Maxence, ça fait plaisir.
Je vous invite à retrouver Jean-Claude, donc soit dans le magazine Runner's World, soit sur le site justrun.fr, soit à Paris, Joinville, si vous habitez donc sur Paris ou dans l'île de France.
Tout à fait.
Ou soit également dans l'équipe New Balance, si vous faites des classiques comme Paris, les différentes courses que tu as évoquées tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Donc sur le marathon de Boulogne aussi.
D'accord. Course. Donc il y a plusieurs courses spécifiques où tu t'occupes.
Tout à fait.
De différents athlètes.
Voilà.
Ok. Si l'interview vous a plu, partagez-la sur Facebook, Twitter, Google+. Également, si vous avez les moindres questions par rapport à des entraînements sur 10 km, semi-marathon, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo et Jean-Claude pourra vous aider.
Tout à fait, sans
problème. Et également, aller sur le site justrun.fr et écrire à Jean-Claude pour avoir toutes les réponses à vos interrogations.
Ouais.
À bientôt.
Au revoir.
Bye.